Radio Okapi.
Le journal Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, ville morte organisée ce mardi sur l'ensemble de la province du Sud Kivu à l'appel de la société civile. Objectif affiché, dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. À Lubumbashi, un sac de farine de maïs de 25 kilos se vend jusqu'à 40 000 francs congolais, voire plus. Pour lutter contre la spéculation des prix, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a mis sur le marché la farine de maïs produite localement au prix de 20 000 francs le sac. Notre invitée, c'est la directrice adjointe de l'Institut de sciences biomédicales de l'Université à Celte de la Belgique et professeure associée à l'Université de Kindu. Virginie Bito parle du partenariat entre les deux universités. Madame, messieurs, bonsoir. Au Sud Kivu, le mot d'ordre de la société civile appelant à une journée ville morte aujourd'hui a été observé sur l'ensemble de la province. Toutes les activités commerciales et les transports en commun n'ont pas fonctionné. La plupart d'écoles non plus n'ont pas ouvert. La société civile s'en félicite pour dénoncer l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Le point de la situation avec vous, Emmanuel Elmajoua Kabedi.
Jusqu'au-delà de 16 heures locales de ce mardi, la ville de Bukavu a tourné au ralenti. Stations d'essence, banques, écoles, boutiques et magasins, tout est resté fermé. Les quelques taximens qui ont tenté de circuler l'avant-midi ont vite quitté la route suite à la pression des jeunes gens qui ont fait la ronde de la ville jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Seuls quelques bureaux de l'État ont tenté de fonctionner timidement jusqu'à la mi-journée. Les membres de la société civile du Sud Kivu se félicitent que la population ait pris conscience du danger qui plane sur la partie est de la RDC. Par cette journée ville morte, ils dénoncent l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert de M23, l'inaction des forces de l'EAC présentes au Nord Kivu et encore l'hypocrisie de la communauté internationale. Même à l'intérieur de la province du Sud Kivu, nos sources renseignent que la vie est paralysée dans presque tous les territoires. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, il n'y a pas eu de combat aujourd'hui, mardi, mais la situation reste imprévisible sur toutes les lignes de front. Toutes les forces en présence maintiennent leur position dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Par contre, dans les territoires de Masisi, les FARDC ont une avance sur les positions des rebelles du M23 dans les secteurs de Kabati, Makombo et Kingi. Explication de Blaise Shindani Kambala.
Selon les sources d'Île-de-Foix, l'armée est parvenue à déloger hier lundi dans la soirée les rebelles d'une des collines stratégiques près de Kabati, dans la zone qui couvre la ferme qui appartenait anciennement à Paipai. L'armée a procédé au pilonnage de la zone jusqu'hier tard dans la nuit avant que les rebelles ne battent retraite. C'est sur cette colline où les rebelles ont installé une artillerie lourde qui leur permettait de pilonner les positions tenues par l'armée dans ces secteurs. Non loin de là, les mêmes sources précisent que les rebelles auraient installé leur base logistique et des ravitaillements dans la ferme de l'Espoir située sur l'axe Kabati qui relie Roué et Kaoussa. C'est à partir de cette base que les rebelles ravitaillent leurs positions en munitions et en rations alimentaires. Sur les autres fronts, la situation reste calme. De son côté, le porte-parole de l'armée affirme que les FARDC observent scrupuleusement le cessez-le-feu conformément aux accords de Luanda. Le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko ajoute que l'armée avance sur le théâtre des opérations et ne réagit qu'en cas d'attaque ou d'infiltration de ses positions par les rebelles.
En nouvel élan, le parti politique de l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito dit ne pas comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, recours aux forces régionales de l'EAC pour combattre les rebelles du M23. Dans une déclaration faite ce mardi ici à Kinshasa, le porte-parole de ce parti politique estime que le chef de l'État congolais devait plutôt recourir aux forces de la SADC qui ont fait leurs preuves en 1998. Albert Mukulubundu fait remarquer que l'EAC, qui comprend des États agresseurs de la RDC, ne pourrait pas défaire les rebelles du M23. On l'écoute.
Nouvel Élan dénonce les propos défaitistes et la duplicité du régime en place. Monsieur Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADC, préfère recourir aux armées de la balkanisation, donc aux forces régionales de l'EAC, pour combattre les mêmes forces de l'EAC alliées du M23, alors qu'il est président en exercice de la SADC, dont les troupes avaient combattu les mêmes pays agresseurs en 98 sous le règne du feu président Laurent Désiré Kabila. Face à cette trahison dont se rend coupable le régime actuel en complicité avec certains États de la communauté internationale, Nouvel Élan encourage les FARDC à se battre aux côtés de nos populations contre l'agression rwandaise, ougandaise et les armées de la balkanisation dites les forces régionales de l'EAC. Nouvel Élan appelle les populations congolaises, principalement celles de l'Est, à demeurer debout, vigilantes et à résister contre les agresseurs ainsi que leurs complices congolais.
Restons en Nord Kivu où au moins 23 personnes ont été tuées, d'autres portées disparues et des milliers d'autres déplacées depuis le début de l'année dans les groupements de Ngulo, Boulengia, Luongo, Manzia, Mwola et Mwenye du territoire de Lubero. La société civile locale affirme que cette situation fait suite aux affrontements récurrents entre les Mai Mai du Front des Patriotes pour la Paix de Kabido, de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, de Kilalo et la coalition Ira Force de Mazembe. Son président Georges Muhindo Katsongo appelle les autorités du pays à restaurer la paix dans la zone. Sachez que pour le moment, nous n'avons pas eu la réaction des FARDC à ces sujets. Qui a tué à Kwamout et pourquoi? S'interroge actuellement le député provincial David Bisaka, élu du territoire de Kwamout dans la province du Mai Ndombe. S'est confié en Radio Okapi ce mardi, il désapprouve la décision des autorités du pays qui donne accès aux présumés auteurs des violences d'intégrer les FARDC. Il a été joint par Irène Boma.
Quand on dit les gens qui ont tué vont faire la formation militaire, ma population regrette à travers moi. C'est de l'impunité. Je venais de saisir la Monisco pour dénoncer ça. Comment dans un État qui se respecte, on va remercier les tiers? Je suis vraiment très mécontent de cette décision. Là, même le 27, la SAEC avait arrêté en Cana, le 10 février, c'est aujourd'hui qu'ils partiront au centre d'inscription militaire. Nous sommes dans quel état comme ça? Jusque-là, nous ne connaissons pas qui a tué à Kwamutu et il a tué pourquoi. C'est une façon d'effacer les traces. Demain ou le lendemain, on dira quoi par rapport à cette histoire? Qui avait tué à Kwamutu et il avait tué pourquoi? C'est la question que je me pose chaque matin quand je me réveille. C'est compliqué. Nous déplorons. Je viens demander à la Monisco aujourd'hui de nous secourir parce que nous sommes déjà abandonnés par l'État congolais. On veut établir les responsabilités. Que l'État congolais réponde à ces deux questions par la justice. Qui a tué dans les Kwamutu et il a tué pourquoi? Qu'est-ce qui l'a motivé pour tuer?
Revenons un instant au sud Kivu où deux jours après le naufrage d'une embarcation motorisée dans un port de la ville de Bukavu, 8 corsans vifs flottant sur le lac Kivu ont été retrouvés ce mardi matin à l'endroit où l'incident s'était produit. Ces corps ont été repêchés par les services du gouvernement provincial et conduits à la morgue de l'hôpital général. Le récit de Cynthia Bachizinabizana.
Les faits s'étaient produits le samedi 11 février aux alentours de 16 heures. Les passagers à bord d'une pirogue motorisée ont été pris de panique lorsqu'ils aperçoivent un grand bateau s'approcher d'eux au port. C'est le sauf qui peut. Beaucoup adoptent un réflexe de survie et se jettent dans le lac. Certains seront sauvés par des pêcheurs et d'autres personnes braves et deux personnes sont signalées portées disparues jusqu'à la découverte macabre de ce mardi matin. Le ministre provincial des Transports, Mathieu Alimassi.
Il y a 8 corps qui sont repêchés, il y a 4 femmes et 4 hommes. Et on va continuer à faire la recherche sur les eaux.
On a une estimation du nombre de disparus?
Estimation du nombre de disparus, pas jusque-là, mais c'est 8 là, c'était le nombre qui était supposé être disparu.
Ce lundi 13 février, le ministre provincial des Transports avait réuni tous les acteurs du secteur pour rappeler et veiller à l'application des mesures de navigation sur le lac. C'est notamment les embarcations motorisées qui doivent respecter leur lieu d'accostage. Les passagers ne doivent pas être mélangés aux marchandises et ils doivent impérativement porter les gilets de sauvetage, a précisé le ministre provincial des Transports. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Économie à présent. À Lubumbashi, un sac de farine de maïs de 25 kilos se vend jusqu'à 40 000 francs congolais, voire plus. Pour lutter contre la spéculation des prix, le gouvernement provincial du Haut-Katanga a mis sur le marché la farine de maïs produite localement au prix de 20 000 francs congolais le sac. L'opinion publique se demande où serait passé le maïs qui a été produit par les agriculteurs qui ont reçu la subvention du gouvernement provincial. Pour le responsable de l'ASBEL, Mama Espoir du Congo, bénéficiaire de cette subvention, leur production est déjà sur les marchés locaux et lutte pour la stabilisation des prix. Jean Moussangi Piri est au micro de Jean Ganduka Bongo.
Il y a des routes de desserte agricole impraticables parce que nous sommes à la période pluvieuse. Par exemple, du côté du territoire de Mpweto, il y a des maïs qui ont été produits. La campagne agricole 2021-2022, il n'y a pas moyen d'évacuation de ces maïs jusqu'ici à Lubumbashi. Territoire de Kipushi, si vous prenez l'axe Sambwa, vous arrivez là où on appelle Muriashi. C'est un centre grainier de maïs. Il y a le maïs qui pourrit. La route est vraiment impraticable. Si les autorités peuvent nous arranger certaines de ces routes. La deuxième raison, à cette période, nous sommes en train de s'arrêter le projet agricole. La troisième raison, il y a hausse de dollars au marché. Néanmoins, nous les agriculteurs, notre petite contribution, parce que nous recevons la subvention du gouvernement provincial, est en train d'atténuer un peu les prix. Nous devrions normalement atteindre les prix 100 000 comme les années antérieures, mais avec ce que nous avons produit, l'autorité provinciale et gouverneur est en train de mettre la farine produite dans la province du Haut-Katanga au marché, ce qui fait que ça atténue un peu le prix.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le gouverneur de la province du Kasaï oriental a fixé l'opinion publique hier après une journée sans moto à taxi à Mbujimayi. Dans une communication faite hier soir sur la RTNC, Patrick Mathias Kabeya a demandé aux motocyclistes de payer 3 taxes pour être exemptés de la taxe journalière de construction élevée à 1500 francs congolais. C'est notamment la patente, la vignette et la taxe de stationnement. À ceux qui n'ont pas ces documents, il soumet au paiement de cette taxe qui a été à la base de la journée sans moto hier à Mbujimayi. Son extrait de communication.
Notre province du Kasaï oriental doit être reconstruite. Cette taxe n'existe pas seulement au Kasaï oriental. Il y a une ordonnance qui permet que ces taxes soient payées. Je vous demande de ne pas prêter l'oreille aux menteurs. Ils sont nombreux. Ils nous trompent. Ces taxes que vous devez payer et que nous appelons jetons, celui qui a l'argent, il peut se rendre à la DGRK pour payer le document que nous appelons vignette. Vous achetez lorsque nous appelons taxe de stationnement pour une année et vous achetez le troisième que nous appelons patente. Si vous avez déjà acheté ce document, quand les percepteurs se présentent avec les ordinateurs pour vous faire payer, vous ne payerez pas. Mais lorsque vous n'avez pas payé ce document, vous devez payer 1500 francs pour que vous vous préparez à les acheter progressivement. L'année dernière qu'on avait organisé le bouclage, nous nous plaignons que nous sommes enclavés. Mais comment allons-nous réhabiliter nos routes?
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la route nationale numéro 6 reliant la province de la Mongala à celle du Nord-Ubangi par les deux villes Lisala et Businga d'une longueur de 200 km risque de disparaître. 130 km sont impraticables. Les gros véhicules n'y passent plus, même les jeeps 4x4 ne s'aventurent plus sur les chemins. Juste des voyageurs à motocyclette ou à vélo prennent le risque. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur les populations des plusieurs villages sur ces tronçons. Notre envoyé spécial à Lisala, Jacques-Yves Moulima, a parcouru cette route à moto. Voici son récit.
Seuls les habitants des villages situés dans la première partie de cette route, dans un tronçon de 55 km, ont encore la chance de voir les véhicules passer. Au-delà, la route s'est transformée en un sentier. Écoutons ces voyageurs à moto.
Je les ai vraiment impraticables.
La route est totalement impraticable. Atteindre le village de Bosumanzi à 130 km de Sala, tu dois souffrir. Les véhicules ne peuvent pas passer de ce côté-là en dehors des vélos et les motos. La route s'est transformée en un sentier menant au champ. Les véhicules ne passent plus. Réalité que nous avons nous-mêmes vécue en allant vers Goumba à 115 km de Lisala. Les motards, eux,
font des détours.
À 55 km vers l'Isala, au Kumiwano Kotina,
village. Après 55 km de l'Isala, à partir du village Libombo, nous prenons la route allant vers Moveda pour sortir à Gumba. C'est la déviation que nous prenons pour atteindre Boussoumanzi, car la route nationale numéro 6 est impraticable. De Boussoumanzi, nous prenons la route de Boussoumoudjebo pour sortir sur Bombombo afin d'atteindre Businga. L'autre route là n'existe plus. Conséquence, la production agricole a baissé, les véhicules ne passant plus, les villageois ne produisent plus assez et la précarité s'est installée dans la région. Depuis l'Isala, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Poursuite ce mardi à Libreville d'une concertation politique entre les membres de la majorité et de l'opposition en présence du président gabonais Ali Bongo. Les représentants des deux partis s'expriment sur la tenue des élections libres, crédibles, transparentes et sans violence. En Afrique du Sud, des biens appartenant au vice-président équato-guinéen Théodorin Obiang, deux propriétés du Cap et un yacht de luxe amarré au port de cette ville ont été saisis par la justice locale. Cette action a été menée dans le cadre d'une affaire où un citoyen sud-africain avait été illégalement emprisonné il y a 10 ans à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Washington, Berlin, Paris, Rome et Londres s'opposent catégoriquement à la décision d'Israël de légaliser 9 colonies en Cisjordanie occupée et de projeter des nouveaux logements dans les colonies existantes qui ne fait qu'accroître actuellement les tensions entre Israéliens et palestiniens. Dans une déclaration faite ce mardi matin, les chefs de la diplomatie des 5 pays redoutent que ces tensions mettent en péril les efforts d'une solution négociée entre les 2 États, selon l'AFP.
L'invité.
Notre invitée, c'est la directrice adjointe de l'Institut des sciences biomédicales de l'Université Yasset en Belgique. Professeur associé à l'université de Kindu, Virginie Bito parle du partenariat entre les 2 universités et s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Dr Virginie Bito, bonjour.
Bonjour.
Déjà 3 fois que vous quittez la Belgique pour venir dispenser cours ici à l'université de Kindu, plus précisément à la faculté de médecine. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Ce que j'ai constaté, c'est que les étudiants en médecine et les professeurs sont extrêmement motivés. Ils veulent aller de l'avant, former de bons médecins. Seulement, les possibilités sont limitées en termes d'infrastructures, de formation. Donc ça, c'est le constat. On a des gens motivés qui veulent aller de l'avant, mais il n'y a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de possibilités.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions produire de bons médecins?
Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des infrastructures, du matériel pour pouvoir bien leur enseigner, moderniser en fait la façon d'enseigner. Pas qu'un enseignement ex cathedra théorique, il faut vraiment des ateliers pratiques. Il faut que l'étudiant soit au centre de l'enseignement, de façon à ce qu'il acquiert bien, qu'il puisse bien comprendre la matière. Et donc s'il comprend bien la matière, il pourra devenir un bon médecin et il pourra aider ses patients de la meilleure façon.
Mais l'université de Kindu a signé un partenariat avec l'université Hasselt. Qu'est-ce que vous apportez à l'université de Kindu à part la formation?
Donc ce partenariat, c'est effectivement un partenariat pour 5 ans, basé déjà sur un partenariat précédent de 2 ans. Ce qu'on va apporter, c'est bon d'abord la formation des assistants, la formation de certains assistants en tant que professeur, pour avoir des professeurs permanents qui, eux, pourront former d'autres personnes en plus. On va apporter du matériel pour l'anatomie, des mannequins. On va amener du matériel pour faire de la physiologie, de façon à créer des travaux pratiques, des vrais travaux pratiques. Et on veut aussi créer un laboratoire de recherche clinique, qui sera vraiment la base pour améliorer par la suite les cliniques universitaires. Vous voyez, c'est vraiment une approche globale.
En contrepartie, qu'est-ce que votre université gagne?
Elle gagne juste le plaisir de pouvoir aider une autre université. Et par la suite, quand l'université de Kindu sera bien lancée, qu'elle aura son laboratoire de recherche clinique, on va pouvoir collaborer et faire du vrai travail de recherche scientifique. C'est en fait un investissement à long terme. Quand Uniki sera vraiment en état de pouvoir publier des données, de pouvoir faire de la recherche, d'analyser des données, on pourra collaborer vraiment sur des vrais projets scientifiques et donc publier dans des journaux internationaux.
Et comment est-ce que vous avez coté vos étudiants qui vous venez de donner les cours de philosophie cardiovasculaire?
Comment je les cote? Je les cote comme je cote mes étudiants en Belgique, exactement. Donc c'est-à-dire que l'enseignement que je leur donne ici, à vos étudiants, à l'Uniki, c'est exactement le même que je donne à mes étudiants en Belgique. Mon but à moi, c'est que vos étudiants ils aient exactement ou à peu près le même niveau que les étudiants européens. Comme ça, s'ils peuvent avoir l'occasion de faire des stages en Europe, ils auront le même niveau, ils n'auront pas de difficultés.
C'est-à-dire que les étudiants du Maniement peuvent avoir la chance d'aller passer leur stage même en Belgique?
Plus tard, quand ils seront plus avancés, là j'ai enseigné au bac 2, donc aux deuxième année de médecine. Plus tard, ils feront des stages quand ils sont en cinquième ou sixième année. Donc oui, il y aura des possibilités de faire des stages pour les meilleurs, bien entendu.
L'université de Kindu est une université publique de l'État. Qu'est-ce que les autorités académiques doivent faire en urgence pour que nous puissions avoir de bons rendements?
C'est ça. Alors, très concrètement, besoin de fournir l'énergie solaire dans toute la faculté, ça c'est crucial. Si on veut créer un laboratoire, si on veut mettre du matériel, il faut de l'électricité. Donc, il faut investir dans l'énergie solaire. C'est vraiment la priorité. De deux, fournir un local pour pouvoir installer le laboratoire de recherche clinique. Alors, à l'origine, on avait pensé le mettre à la faculté de médecine. Mais les patients, s'ils doivent venir jusqu'à la faculté de médecine, ils doivent faire 7 kilomètres comme ça dans la poussière. Non, c'est pas possible pour les patients. Donc, il faut que ce soit un local en ville. Donc concrètement, l'énergie solaire, un local et forcément le soutien pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Enfin, qu'est-ce que tu as trouvé de bon et de potentiel à l'université de Kindu durant ton séjour?
Les gens sont extrêmement motivés, ils veulent vraiment vraiment aller de l'avant. Donc je trouve vraiment que l'université de Kindu, comme ma propre université à Hasselt, c'est une université jeune, dynamique, qui a un très très fort potentiel. Je crois intimement que Uniki dans 10 ans sera aussi grande que d'autres universités, je suis intimement convaincue.
À part ça?
À part ça, je pense que même les autres universités pourront potentiellement envier Uniki. À mon avis, si Uniki arrive à évoluer comme on le veut dans notre projet et même au-delà, je pense sincèrement qu'Uniki pourrait devenir un exemple pour d'autres universités.
Docteur Virginie Bito, merci.
Un grand merci à vous.
C'était donc l'invité de Radio Okapi, la directrice adjointe de l'Institut des sciences biomédicales à l'université Hasselt en Belgique. Professeur associé à l'université de Kindu, Virginie Bito, était interviewée à Kindu par Florence Kizalunga. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Merci à Pélé Kipelamando qui m'a accompagné.